Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International dans cette deuxième partie, celle qui se déroule après cette demi-finale de Ligue des Champions. Et les Reds sont donc en finale. Liverpool s'est imposé au stade de la Ceramica comme au match aller à Anfield. Villarreal a sombré en deuxième mi-temps. Le petit poussé de ce dernier carré a craqué physiquement et mentalement et fini à 10. Mais cette équipe espagnole sort avec les honneurs. Elle a fait rêver ses supporters. Bravo Unai Emery. Une dixième finale de Ligue des Champions pour l'OL. Les Lyonnaises reprennent leurs bonnes habitudes en écartant le PSG, pourtant encouragé par tout un stade. D'où vient la force et la régularité de l'OL ? En Italie, les Milanais entretiennent le suspense dans le Calcio. Les deux peuvent toujours prétendre au Scudetto, alors que derrière, Naples et la Juventus de Turin ont assuré leur place en Ligue des Champions, en espérant mieux, sans doute, l'année prochaine. Les visiteurs du soir de Radio Foot International, bonsoir Franck Simon.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous et de veiller tard, ainsi que Nabil.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Nabil. David Finzel et Laurent Salerno veillent aussi avec nous et veillent sur cette actualité chaude de la soirée. Radio Foot, c'est parti.
Buscando a Stupiñán, ahí está el ecuatoriano, encarando a Keita, ¡Capú! ¡Gol, Día! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Día, Día, 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 Día! ¡Villarreal 1, Liverpool 0! ¡Puede ser la noche de Bulay Día! La marca de Robertson apura sobre línea de fondo, cambia a la zurda para el segundo palo, Coquela, ¡gol!
¡Vamos!
¡Liverpool 0, Francisco Gelan!
Liverpool now have got that control that was lacking in the first half. Here is Fabinho coming forward. Fabinho shoots and Fabinho scores! That's the goal that Liverpool wanted! Liverpool back in control of the tie! It's Alexander-Arnold, right corner of the area, it's a left-footed ball in. Luis Diaz with a header, and the flag stays down, and Luis Diaz has got Liverpool's second goal. And surely now the Champions League final beckons for Liverpool. 16 minutes remaining, the goalkeeper Rulli has come, he hasn't got there. This is Mane, Mane's away from the challenge of Foyth. He's got an open goal, and he finds it. Sadio Mane secures Liverpool's place in the Champions League final.
Yes, Liverpool. Le stade de la Ceramica chantait encore pourtant à la fin de la rencontre pour encourager son équipe, pour la remercier aussi sans doute de ce parcours inattendu en Ligue des Champions. Les supporters tendaient leur grande écharpe jaune et rouge vraisemblablement, comme le veut la tradition. En tout cas, Villarreal est éliminé ce soir et c'est logiquement, peut-on dire, Liverpool qui sera au rendez-vous de la finale au Stade de France le 28 mai prochain. Alors logiquement, les Reds s'attendaient quand même à être secoués hein, ce soir, Franck Simon. Ils l'ont été parce qu'ils ont dû d'entrée eh bien, voir leur avantage ruiné, on va dire. C'était un scénario en deux temps.
Oui, c'est un scénario en deux temps. Une première période, pour, vous l'avez décrit, pour Villarreal, la seconde pour Liverpool et son vécu. Mais c'est vrai que l'histoire démarre dès la troisième minute, une action superbe, une action collective conclue par le champion d'Afrique, Bulay Dia. Et ensuite, ça se complique très, très rapidement parce que Liverpool ne s'en sort pas. Liverpool n'arrive pas à mettre en place ce système-là de contre-pressing. Et en fait, se fait prendre à son propre piège par Villarreal. Et ça a donné tellement de rythme, tellement d'intensité à cette première période. On s'est régalé, franchement.
Oui, et le public se régalait aussi. On sentait qu'il y avait une ambiance, finalement, autour de cet espoir.
Oui, il y avait
une grande banderole marquée à 90 minutes, ça voulait dire.
De notre rêve, oui.
Exactement.
Et ils en ont été à la fois si proches, mais en même temps si loin. Quoi, quand on regarde, quand on prend le match, on
le
recule
match
un peu.
Le match dans son ensemble.
Mais ça a été une première période, franchement, d'une folle intensité. Très agréable. Et c'est vrai qu'on s'est, je ne vais pas dire qu'on s'était ennuyé, tu vois, Nabil, au match aller, mais ce n'était pas du même tonneau quand même.
Non, non, non.
Non, tu as raison. Au match aller, c'était un bloc bas qui tentait de résister, conserver ses chances pour le match retour.
Exact.
Et finalement, bon, via Liverpool,
ça avait été 2-0 déjà à l'aller.
Et habitué à ce genre de scénario en Première Ligue, parce que c'est souvent une équipe qui est attendue comme Manchester City. Mais là, à signaler quand même et à noter, alors on pourra trouver quelques lacunes à Liverpool, on reviendra dessus, l'énorme première mi-temps de Villarreal, 2-0. Ouais. C'était le scénario absolument parfait dans tout ce qu'ils
rouleau
ont fait.
Rouleau compresseur. Hein.
Dans tout ce qu'ils ont fait, ils se sont permis de jouer assez haut avec un défenseur comme Raoul Albiol. Dans la profondeur, quand vous avez des Mané ou des Salah ou éventuellement des Rota.
C'est Nabi Keïta.
Mais il
on
pouvait
voyait
pas passer.
La différence de taille en plus donc, était telle.
Donc c'était assez une équipe joueuse. Vous avez raison, dans une ambiance qui nous rappelle les grandes soirées européennes. Et en plus avec de la diversité. Parce que Villarreal, c'est un... Certains peuvent penser qu'ils n'étaient pas invités, mais si, ils étaient invités, ils ne sont pas là par hasard.
Complètement. Et puis, on découvrait ou redécouvrait des joueurs. C'est ça qui était intéressant aussi dans cette équipe.
Et puis, c'est le plaisir. C'est finalement pas la PlayStation, en fait, en quelque sorte. C'est pas recruter les meilleurs joueurs de tous les temps et les associer les uns à les autres. Là, on voit un travail d'entraîneur, on voit un collectif, on voit des circuits de passe, on voit de la qualité individuelle avec des joueurs parfois peut-être sous-cotés à l'échelle européenne. Ensuite, évidemment, Liverpool s'est remis la tête à l'endroit. Moi, je pense que sur la première mi-temps, à la différence du Bayern, je ne pense pas qu'il y a eu de la condescendance de la part des joueurs de Liverpool. Je pense que du côté de Villarreal, en fait, on avait le sentiment que c'était le match de leur vie. Et du côté de Liverpool, c'est vrai qu'ils ont fait la différence à l'aller. Ils ont un peu jaugé peut-être le niveau de leur adversaire. Et je suis sûr que ce n'est pas l'entraîneur, mais quelque part, ils se sont dit c'est un match parmi des matchs difficiles dans une séquence. Et c'était un match important parmi d'autres. Alors que de l'autre côté,
ils ont joué leur vie.
Ils ont joué leur vie et franchement, bravo et merci à eux.
Eh bien, on va écouter justement l'entraîneur de ces Reds, Jürgen Klopp, lui aussi dire merci, mais il dit merci aussi à Villarreal.
Ils étaient en feu. Il faut respecter le stade, cette équipe, cet entraîneur. Ils ont été incroyables. Ils ont réussi le début de match qu'ils voulaient. Ils avaient le momentum, ils étaient agressifs. Ils ont appris du premier match. Ils ont pris beaucoup de risques et nous, on ne s'était pas battus. On a juste envoyé des longs ballons. Donc c'était facile pour nous de nous améliorer en deuxième période. Et dans une situation comme ça, c'était un grand rêve pour eux d'aller en finale, pour nous aussi. Et on a ressenti la pression. Ensuite, on a commencé à bien jouer au football. On a été très bons et on a mérité de gagner le match.
Jürgen Klopp au micro de nos confrères de Canal+. On n'imagine pas ce qu'il a dit dans le vestiaire, mais c'est vrai qu'il a dû les secouer un peu, Franck.
Certainement, mais les mettre déjà devant les placer devant leurs responsabilités. Voilà. On entend bien dans ses propos qu'ils ont senti
la marée, quoi.
Le vent du boulet.
Ils se sont dit, on n'est peut-être pas si insubmersible que ça.
Et en face, ça allait bien. Ils étaient bien en place, bien physiquement. Puis tout ça, c'est détraqué au bout d'un quart d'heure.
Les taux, c'est desserré. Ouais. Ça s'est joué sur le carburant.
Ils ont craqué un peu physiquement.
Oui, quelques ajustements.
Mais on a eu la sensation dès le troisième but, le premier but de Liverpool, mais qui était le troisième but par rapport à leur acquis sur les deux tours. On a vu dans les regards déjà, deuxième but marqué par Luis Diaz.
Justement, vous parlez de lui. C'est vrai que son entrée, je trouve,
elle
change tout. Elle change tout. Elle renverse.
Après, il y a aussi le pressing qui a été mis un peu plus en place. Je pense qu'il a recadré des choses au milieu de terrain. En général, le leader du pressing, c'est Henderson. Il était là. Il n'était pas là. Il était sur le banc. On a vu qu'ils ont été mis en difficulté en première minute. À mon avis, ils ont dû réajuster quand même certaines choses au milieu de terrain. Forcément, l'étau s'est desserré parce que Villarreal, à un moment, ils ne sont pas dopés. Mais, à un moment, ils ne peuvent pas, pas continuer humainement.
Surtout face à une équipe comme ça.
Voilà. Et puis, je suis désolé, Franck, je sais que tu es là et que ta corporation de métier, en dehors du journalisme.
On a prévu d'en parler.
Je vous laisse alors.
Tu vas parler de roulis.
On est en roulis ou on est en roue libre, vous me dites.
On va en parler, c'est promis. Mais avant, je voulais vous poser une question, peut-être, Franck. Est-ce que vous pensez que, quand même, à la mi-temps, Liverpool tremble?
Tremble, je ne crois pas, parce que ils ont le vécu, ils ont l'expérience collective et même individuelle de ces rencontres-là. On a des champions continentaux, on a des garçons qui connaissent, ils savent ce que c'est d'aller chercher une finale. Ils ont ce vécu que n'avait pas nécessairement. Je parle en Ligue des Champions, attention, parce que c'est une équipe qui a fait des choses dans d'autres compétitions européennes. Et du coup, non, mais je pense que tout simplement, ils ont été piqués, quoi. Ils ont été piqués un petit peu aussi dans leur orgueil. Comme l'a dit tout
ils
à l'heure Nabil.
Ils savaient que les autres leur rentreraient dedans. Oui, bon, mais après, les buts rentrent aussi assez facilement. C'est ça leur problème, quoi.
Peut-être pas à ce point-là.
Parce qu'ils sont très, très beaux, les buts de Villarreal.
Un super capou. Un super capou.
Ouais, t'as raison, Capou, deux passes décisives pour l'ancien Toulousain. Et en plus, plus des deux buts, il y a eu quand même pas mal de situations. Parfois, Liverpool était sur. Je les ai rarement vus dépasser comme ça, très honnêtement.
Cette saison, très rarement.
Ouais, ça me faisait penser au Liverpool l'année dernière. Vous savez, quand Van Dijk était
blessé.
Il n'a pas été bon pendant la première période.
Non, mais je crois qu'il est moins. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il reste évidemment que le grand commandeur de cette équipe. Mais il est moins souverain que l'année où il termine quatrième au Ballon d'Or. Ou deuxième, pardon.
Il y a des erreurs de marquage qui sont quand même flagrantes.
Il y en a un à droite. Aussi, à droite qui est en difficulté, qui est un peu dans la ratière pour moi, c'est Alexandre Arnold. Alors ok, on l'a vu sur
les phases offensives peut-être pas.
Ouais, mais défensivement, il a été mis en difficulté à plusieurs reprises et je trouve qu'il est moins bien que l'année dernière. D'ailleurs, en Angleterre, on parle plus pour le poste de latéral droit maintenant de Reece James de Chelsea que de Trent Alexander-Arnold. Je pense que lui, il est un petit peu en deçà de ce qu'on a vu l'année où ils ont gagné notamment la Ligue des Champions.
Après Annie, si on doit analyser les uns après les autres ces joueurs, on attendait aussi beaucoup d'un Thiago Alcantara.
Eh oui.
On n'a pas vu. Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'était un peu de lui. On se disait, il est sur une dynamique, il retrouve son...
Il a été fantomatique.
Finalement, c'est vrai que là, il y a eu des moments où on se disait, mais ils vont en prendre beaucoup comme ça. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est un 2-0.
Naby Keïta était catastrophique. Alors, je suis désolé de dire ça, mais il faut un moment dire les choses. En deuxième mi-temps, il a été mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais en première mi-temps, il y en a un qui était très mauvais.
Ouais, mais il avait un immense personnage devant lui, Étienne Capou, justement,
C'était difficile.
Il a été en grande difficulté, quoi. En première mi-temps. Hein.
C'était aussi le choix, l'un des choix forts.
Oui, mais il était bon ces derniers temps, Naby.
Voilà, c'est aussi pour cela qu'il était présent. Ouais,
mais là, il n'a pas été bon sur la première mi-temps.
Non, mais je veux dire,
il fait partie de ceux qui ont le plus, pour moi, été en difficulté en première mi-temps.
Il était en difficulté, mais il ne s'est... Comme la plupart, il ne s'est jamais
pas
arrêté.
Voilà,
il s'est pas caché, quoi. Il était dans le dur et comme tu dis, il est un peu réapparu ensuite. Mais il y a eu d'autres Africains pour le coup qui ont brillé en seconde période.
Oui. Donc avec quand même un score de 3-2 finalement. Liverpool aura gagné les deux matchs. Sadio Mané, il a marqué son cinquième but dans cette compétition.
Ouais, cette saison, c'est bien. Félicitations à lui. C'est un but important. Ils étaient menés 2-0.
Bien sûr, un troisième but qui donne le succès.
Oui, un but qui permet d'offrir un succès à l'extérieur. Un but où il va jusqu'au bout de son effort. Il s'applique. On est dans le dernier quart d'heure. Il a lutté. Il n'a pas eu beaucoup de bons ballons dans ce match
quand même.
Et je l'ai trouvé vraiment.
Pas mal, ouais.
Ouais, franchement, il a bien travaillé. On était contents et il y a une image qui m'a énormément plu à la fin de la rencontre où on le voit tout sourire comme ça, agiter la caméra. C'est magnifique. C'est comme ça qu'on aime le voir. Mm-hmm.
Les bras ensuite de son entraîneur.
Oui, c'est une finale.
C'est cette espèce de soulagement.
Annie, c'est une finale supplémentaire.
3 sur les 5 dernières années.
Pour lui aussi.
C'est extraordinaire.
Il vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. On ne cessera pas de le rappeler avec les noms de la Teranga. Il a remporté une autre finale d'une certaine façon contre l'Égypte lors des barrages de la Coupe du Monde. Il va être en finale. C'est une très très belle année pour lui.
Il a remporté la finale. Ils ont déjà remporté la finale de la Ligue.
Ouais, donc
ils sont en finale de la
FA Cup.
Cup. Enfin, c'est
bien. On a envie que ça continue.
Ils sont en finale de la Ligue des Champions. Ouais, ouais. Et puis, ils sont en finale de la Première Ligue d'une certaine façon.
Ouais. En revanche, Rouli, c'est terminé.
C'est un peu triste pour lui.
Et finalement, pas décisif.
Non.
On va écouter l'un des autres acteurs de cette équipe des Reds, c'est le défenseur français Ibrahima Konaté.
Je pense qu'on a fait un mauvais début de match. Après, on est tombé sur une très bonne équipe de Villarreal qui a su mettre les ingrédients pour nous faire mal en première mi-temps. Mais on savait qu'on n'était pas le vrai Liverpool. Et à la mi-temps, on a beaucoup parlé avec le coach et on s'est entraîné. Et on savait qu'on devait revenir et qu'on devait tout donner et qu'on devait montrer notre vrai visage. Et c'est ce qui s'est passé et on repart avec la victoire.
Voilà, montrer son vrai visage, il est cash.
Ouais. Mais Klopp l'a été aussi dans ses déclarations.
Ouais.
On n'était pas le vrai Liverpool et on a fait preuve de solidarité. Ça veut dire donc que ça n'a pas nécessairement gueulé dans le vestiaire.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a eu du recadrage, comme tu l'as dit.
Il n'y a pas besoin de gueuler. Il y a des coachs, parfois, ils ne disent rien, ils laissent les joueurs entre eux. C'est chacun sa méthode de management.
Non, mais surtout, on voit Klopp. Enfin, je veux dire, on ne le voit jamais. Il y en a d'autres. C'est leur manière d'être, de râler tout le temps et d'hurler sur le terrain. Ouais. Lui, déjà, il ne le fait jamais.
Ouais, il les a remis. Il a recadré.
Il réajuste.
Il l'a bien expliqué. Hein, voilà. Il a réajusté. Ouais. Et puis l'entrée, ce qui a déjà tout rééquilibré, c'est l'entrée de Diaz. Quoi.
Oui, qui leur a fait très mal.
Parlons de ce Luis Diaz. Ah, oui, regardez un peu son parcours, Franck.
C'est fou quand même, hein. Nabil, toi, tu le connaissais un petit
on
peu connaissait avec Porto.
On rigolait parce qu'il y avait Corona de l'autre côté. Et donc, personne ne trouvait le remède face à lui. Il y avait le Mexicain et le Colombien. Donc, Porto qui recrute toujours très bien. Ouais. Et donc, il y avait ce Luis Diaz déjà qui faisait du dégât. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un garçon qui aurait pu signer à Tottenham et qui a finalement signé à Liverpool. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose.
Mais il est
exceptionnel.
Il arrive pour 7 millions, il part pour 45.
Porto, ils ont fait la bonne opération. Là.
Super opération.
On est sur un 12e homme qui ressemble de plus en plus bientôt. Parce que concrètement, il est là en doublure sur le côté gauche au départ. Mais Mané est des fois replacé dans l'axe. Jota n'a pas trop fait l'affaire ce soir. Donc, bon, après, c'est une escouade offensive. C'est comme Manchester City, par exemple. Oui. Ils sont 6 ou 7 pour 3 places. Donc,
de temps en temps, on sort Jesus. De temps en temps, on en sort un autre.
Annualisé, tout le monde va s'y retrouver. Mais il leur apporte tout de suite.
Il est là depuis 3 mois.
C'est ça qui est impressionnant.
Et ses statistiques.
Mais Liverpool, tu sais très bien qu'ils recrutent bien. Ils se trompent rarement. Ils se sont trompés sur un peu le japonais, là, Minamino. Mais globalement, sur tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, Fabinho.
Shaqiri,
oui, effectivement, Shaqiri, ça n'a pas été une réussite.
Pas trop.
Mais ensuite, vous avez des joueurs comme Origi qui font le bon. Enfin, Mané, Salah, Firmino,
Fabinho,
Van Dijk pour 80 millions d'euros. Est-ce qu'il y a très peu, en fait, on voit bien que leur cellule de recrutement, elle est vraiment très performante.
Très ciblée.
Elle cible bien. Et elle fait ce qu'il faut. Au moment, on va raconter des choses sur leur manière de travailler, mais on n'a pas le temps. Mais si vous faites une autre émission sur recrutement, je vous raconterai un peu comment ils mettent les joueurs dans les meilleures conditions.
C'est fou quand même parce que il est dans la dynamique de ce qu'il faisait avec Porto. On regardait ses statistiques, c'est effrayant, les passes dés, les buts. Donc un joueur important, comme tu l'as décrit.
Le meilleur joueur du championnat du Portugal.
Et qui s'est très vite adapté.
Et là,
en
il
plus,
est à peine arrivé, même pas 3 mois. Il est en finale de Ligue des Champions.
Et puis, c'est effrayant parce qu'il met quelque part, qu'on le veuille ou non, même si Salah, Mané, enfin surtout, il est du côté de Mané. Mané, comme l'a rappelé Franck, fait une année absolument exceptionnelle. C'est un joueur qui est candidat au Ballon d'Or. Bah concrètement, Luis Diaz, quelque part, c'est une concurrence de très haut niveau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous relâcher. Parce que quand vous avez un joueur comme ça derrière, c'est ça qui est bien, c'est que ça, même s'il est déjà tout en haut, il a encore quelque chose qui le pousse. Quoi.
Et ça fait une escouade, comme tu le disais, et un trio super intéressant.
C'est Firmino qui est un peu moins bien cette année.
Ouais, du coup, il a glissé dans la hiérarchie.
Ouais.
Et on a
mais quand il rentre, parfois il marque, joueur, donc ça reste.
Est-ce qu'il va accepter ensuite son sort?
T'as pas le choix, faut travailler et te remettre en question.
D'autant que Mané, alors il le fait pas avec le Sénégal, mais ça peut être une idée, il repasse de temps en temps dans l'axe, maintenant en faux neuf presque, un peu à la Guardiola, parce que là ce soir il finit en faux neuf, Sadio Mané.
Et il termine vraiment très très bien. Mo Salah qui fait une passe décisive.
Il joue juste
de
ça là.
Ouais, franchement.
Pas son meilleur match, mais il joue juste.
Voilà, il joue juste. Et y a, c'est une équipe super équilibrée, une équipe qui sait, à un moment donné, se réveiller.
Exactement. Et se trouver.
Ouais, peut-être que défensivement, elle est chouïa moins bien que. Offensivement, j'ai trouvé exceptionnel, mais c'est juste mon sentiment. Je les trouve moins forts défensivement que l'année où.
Alisson, y a-t-il pénalty ou pas? En tout cas, il fait une sortie quand même. Justement, parlons de gardien, mais écoutons, on va écouter un autre joueur de Villarreal, le français Étienne Capoue, alors, qui ne terminera pas le match parce qu'il prend le deuxième carton jaune. Ouais. Et du coup, il se retrouve exclu de ce match peu avant la fin de la partie sur carton rouge, puisque double carton jaune. Écoutons en tout cas Étienne Capoue.
Marqué très vite et je pense qu'on l'a fait avec la manière, on était tous à un niveau d'intensité incroyable aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui ce qui a payé c'est le rythme et eux ils l'ont, ils le font tous les week-ends et nous je pense qu'on n'est pas habitué à ça. On l'a payé aujourd'hui sur quelques petits détails et surtout sur l'intensité. On a pu mettre Villarreal sur la carte de l'Europe cette année et on a fait une belle campagne, on a su sortir des gros et mettre un peu de pression à Liverpool sur ce match-là, mais la réalité c'est que maintenant on doit bien finir en championnat pour revenir dans une belle campagne européenne l'année prochaine.
Oui, vraiment
résumé,
très très belle campagne européenne.
Très lucide.
Et oui, ils n'ont pas besoin de baisser la tête parce que franchement, ils l'ont baissé évidemment pendant le match parce que c'était compliqué, mais c'est
beaucoup
vrai
d'orgueil, mais bien placé. Quand ils vont sortir notamment le Bayern et on misait pas grand-chose sur eux et ils ont ce qui les plombe un peu, franchement, ce soir. C'est, pour moi, c'est quand même malheureusement. Tu voulais en venir là tout à l'heure. Hein, c'est le gardien.
Oui, je pense que
Geronimo Rulli qui a pas fait, qui fait pas le match de sa vie.
Hein. Après la seconde mi-temps, elle me paraissait quand même à sens unique. Même si, effectivement, le gardien contribue. À...
Tu y changes les gardiens. Je suis pas sûr que ça fasse
le même
résultat.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, est-ce qu'il serait passé quand même? Je pense pas. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu 2-3 pour Liverpool, mais il y aurait peut-être eu 2-1. Au mieux pour Villarreal, c'est comme ça que je le vois.
Moi, je pense qu'il valait pas une flèche, hein, Geronimo.
Oh là.
comme l'a dit une amie, une de nos amies.
Non, mais justement, quand même sur les 3 buts, malheureusement pour lui, mais il est pratiquement.
Il est pas décisif, Annie.
Non, mais c'est
le
pire que ça
terrible.
Quand même.
C'est celui qui fait mal, c'est le premier.
Il y a 3 erreurs quand même pratiquement.
Le premier et le dernier, parce que le deuxième, il est livré à lui-même par rapport à Luis Diaz. Mais le troisième, il sort, on ne comprend pas très bien, un peu à contre-temps. Le premier, franchement, il fait n'importe quoi.
Ah, c'est le premier qui les tue quand même, parce que le troisième, c'est fini.
Oui, c'est fini.
C'est le premier qui est le tournant du match, concrètement. Et pour un gardien de ce niveau-là, se faire avoir comme ça, c'est surprenant quand même.
Ce n'est que, je crois, le troisième gardien de l'équipe nationale argentine. Mm-hmm.
Ouais, il y a celui d'Aston Villa qui est pas mal, je crois, non?
Oui, il y a Martinez, je crois. Oui,
ouais, celui d'Aston Villa qui est un très bon gardien.
Oui, oui.
Il y en a pas, je me demande s'il n'y en a pas à Crystal Palace.
Il y en a un aussi au pays, à River. Donc, non, il est dans la hiérarchie, il n'est pas très haut.
Non, mais c'est vrai que Franck, vous qui avez déjà pratiqué ce sport et dans les cages.
Avec Nabil.
Contre Nabil. Qui débute comme Romario.
Mais prendre des ballons entre les jambes comme ça arrive souvent?
Des poulets, comme on dit, je crois, au Brésil.
Frango.
Oui. Ça peut arriver parce que parfois vous êtes, ça arrive très très vite sur vous, dans un périmètre très restreint. Le ballon vient rapidement. Il faut être très prompt à la réaction.
Comme Olivier.
Oui, il faut être, il faut, je veux dire, tout le monde n'est pas Thibaut Courtois par exemple ou Edu Mendy quoi. Il faut aller très très vite et lui il n'a pas cette rapidité d'exécution. Il n'était pas forcément très attentif non plus. Et voilà, ça arrive, mais...
Et puis sorti très malheureusement sur le dernier but.
Il sort à contre-temps. Non, c'est pas l'un des meilleurs gardiens de cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Mmh. Et quelque part, voilà, il n'a pas su leur permettre au moins de terminer sur une note positive, clairement.
Mmh. Nabil, quelque chose à rajouter sur le pauvre Rulli Rulla?
Non, mais Franck a tout bien expliqué. Et malheureusement, le premier but... c'est clairement le tournant de ce match. Et ensuite, mais déjà, ils avaient baissé pied physiquement. Ouais. Les taux s'étaient desserrés. Et puis, Liverpool est revenu quand même avec, je trouve, avec d'autres intentions. Et voilà, il y a un moment, le talent fait la différence. Et puis déjà, en première mi-temps, même s'il n'y avait pas eu, même avec un Liverpool pas terrible, de temps en temps, on les sentait quand même défensivement un peu sur le fil. Je regardais s'il avait joué le dernier match avec l'équipe d'Argentine. C'est le cas pour Rulli. Mm-hmm. Donc, il a joué contre l'Équateur. Et il y a l'autre gardien qui...
Donc contre Estupinan.
Et je vais vous mettre un peu au parfum, l'autre gardien, c'est Armani.
Oui, c'est vrai. Je cherchais son nom depuis tout à l'heure. Je savais que c'était un nom un peu connu, mais...
Franco Armani, qui joue à River Plate. Donc voilà pour la petite histoire. Et il y en a un autre qui a un nom d'écrivain qui s'appelle Juan Musso, qui est un gardien du côté de l'Atalanta. Mmh. Voilà. Ouais. Bon, bah,
voilà donc la sortie de Villarreal, ouais.
mais
sortie
bravo,
avec,
bravo
les,
eux, quand même, ouais,
avec les honneurs du sous-marin jaune.
Bravo, c'est au Chili, par contre.
Et souhaitons-leur, ancien du Barça, n'est-ce pas? Renvoyé au championnat. Et c'est vrai que Villarreal, je crois qu'ils sont 7e en ce moment.
7e, ils peuvent se battre pour une place en Europa League. Oui. Ils ne sont pas décrochés, mais ça va être difficile
de trouver une dynamique.
Parce que là, il y a un rêve qui s'est un peu brisé, hein, faut pas se le cacher, c'est des joueurs de haut niveau. Certains peut-être, et je leur souhaite pas, peut-être n'en goûteront jamais à une demi-finale de Ligue des Champions.
Ça, et peut-être leur entraîneur aussi, hein, on ne sait pas. Et puis, Liverpool retrouvera donc la saison prochaine, pas le mois prochain, en fin de mois même, voilà, ce sera le 28 mai.
28 mai. Ça va venir très vite.
Presque vingtaine de jours, il y aura la finale de la Ligue des Champions et nous saurons demain qui sera l'adversaire entre Chelsea et Real Madrid. Real Madrid, rappelons-le, qui a un but de retard.
City, le Real.
Pardon, City, Manchester City, qui a un but de retard après ce match absolument épique qui s'était terminé sur le score de 3-2 du côté de Manchester. Continuons dans Radio Foot International. Nous allons vous parler maintenant d'une 10e finale de Ligue des Champions les Lyonnaises.
Les Fenottes Lyonnaises.
Exactement.
Oui, très belle équipe.
Et parler de l'Italie avec les Milanais qui entretiennent le suspense dans le Calcio. Et ceci avec l'aide de Dominique Sévrac, de Eric Rabessandratana et Philippe Doucet.
Le centre de Bacha, le but le but de l'Olympique Lyonnais. Quel ballon incroyable de Sylvain Bacha et quelle tête derrière d'Ada Heidelberg. Avec Delphine Cascarino, le centre de Cascarino, Melvin Mallard et le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Et c'est terminé. L'Olympique Lyonnais ira bien à Turin et l'Olympique Lyonnais ira bien à la poursuite d'un 8e titre.
Les reines lyonnaises sont donc de retour au premier plan. Elles seront le 21 mai à Turin face aux filles du FC Barcelone pour leur 10e finale de Ligue des Champions, un club qui en a déjà remporté 7. Les lyonnaises se sont qualifiées en remportant leurs 2 demi-finales. D'abord un 3-2 à l'aller, c'était sur les bords du Rhône, et un 2-1 au retour près de la Seine. La fête dans les vestiaires des filles, les tribunes étaient donc pleines au Parc des Princes. 43 000 spectateurs, c'est un record. D'habitude, pour les garçons, c'est plein toutes les semaines, ou tous les 15 jours. Et en l'occurrence, là, eh bien, pour les filles, c'était la première fois. L'autre fois, il y avait eu 25 000 personnes. Oui, parce que le Barça, c'est plus de 91 000.
Un peu explosé le baromètre, oui. Quand même.
Ils avaient 80 000
défis. 80 000 pour la France, 82. Pour la France, c'est un record de loin.
Oui, c'est ça, ouais, de très loin. C'était 25 ou... Ouais. Bah déjà, le match avant, c'était 29, je crois. 29 contre le Bayern.
25 000, il me semblait.
Un peu plus. Et à Lyon, il n'y a jamais eu...
Oui, c'est ce que je me demandais, parce que Lyon, c'est 55 000 places.
Ils ont joué au Parc OL plus d'une fois, au Groupama.
Elles ne doivent pas remplir véritablement. Ouais. En tout cas, l'ambiance était celle des beaux jours.
C'est un double facteur.
Est-ce que c'est le même public?
En tout cas, pour ceux qui mettent l'ambiance, c'est le CUP. Ils mettent un point d'honneur à montrer... en soutenant les filles de manière presque extravagante et exagérée, à quel point ils détestent les hommes en ce moment. La section masculine, ils l'ont toujours fait, donc on peut pas les soupçonner
d'être toujours au lendemain de se rabattre sur les filles.
Elles ont été finalistes déjà, c'est pas vrai.
Ils ont toujours aimé les filles, ils ont toujours aimé les défendre à l'étranger, aller les attendre à la fin de l'entraînement, mettre des fumigènes, mettre de l'ambiance. Donc ils sont pas soupçonnables de découvrir une nouvelle passion. Mais en revanche, il y a une démonstration de force pour montrer à quel point en ce moment ils sont fâchés avec les garçons et ils ont envie de faire grève et de tourner le dos et de ne pas être content, et que ça bouge et que ça change parce qu'ils en ont marre.
Mmh. La différence aussi, c'est que le stade a bien suivi en fait. C'est pas toujours le cas avec les garçons. C'est-à-dire que on a un public un peu différent. Là, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles. Donc,
c'est plus familial,
Du coup, ça répond plus sur les sollicitations du CUP pour se lever, sur tous les matchs que j'ai vus. Là, c'est la première fois que je vois tout le stade se lever au moment où le CUP demande le parc debout. Tout le monde était debout pour chanter. Donc c'est aussi un signe.
Voilà.
Mmh. Oui.
Vous n'êtes pas allé voir les filles, vous, Philippe?
Non, j'étais sur un match de garçons.
À Charletti.
À l'ancienne. À Charletti,
c'est pas un stade de foot.
Non, mais il y avait un match de foot.
Alors, en tout cas, pour les Lyonnaises, ces deux victoires, et notamment celle au match retour aussi, étaient rassurantes. Et c'est ce que dit la défenseure, auteure des deux passes décisives dans ce match, Selma Bacha, au micro de Fred Tuteau.
Très heureuse pour la qualification. En plus, Paris, c'est une équipe très dure à jouer, en plus chez elle, avec un super stade magnifique, des supporters aussi top. Mais maintenant, on a fait le boulot. Il reste encore la finale à aller chercher. Et c'est une année de reconquête. Bien sûr, ça me fait plaisir d'aller en finale et encore plus contre Barcelone parce que c'est vraiment une bonne équipe. Elles ont beaucoup de qualités, mais on a les qualités pour aller, entre guillemets, reprendre ce trophée-là.
Et oui, reprendre le trophée après 5 titres consécutifs. Les Lyonnaises avaient été sorties en quart de finale l'an dernier. Est-ce qu'elles marquent leur retour ferme sur la scène européenne, Eric?
Elles sont assez impressionnantes parce que quand on regarde le match contre Paris... Alors elles sont plus équilibrées que Paris. Ça c'est une vraie grande différence. C'est surtout le côté offensif où quand elles jouent les phases offensives, elles sont beaucoup plus précises que les Parisiennes. Les Parisiennes ont peut-être eu de meilleures intentions que les Lyonnaises sur l'ensemble du match, Mais dans l'efficacité, dans la maîtrise, je trouve que les Lyonnaises, elles ont plus d'expérience, plus de voilà, plus
d'habitude aussi. Ouais, peut-être puis, ça fait, certaines, ça fait très longtemps.
Elles ont souffert quand même. Hein. Les Lyonnaises ont souffert. Mm-hmm. Les Parisiennes ont eu les occasions pour faire la différence. Elles n'ont pas fait la différence. C'est ça aussi. Ouais. C'est qu'à la fin, voilà, vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions. Pour accéder au-dessus, il faut être décisif. Et là, les Lyonnaises ont fait parler l'expérience, ont été solides. Il y a eu des très très bonnes joueuses du côté parisien, comme Gueyoro, qui a été très très forte sur ce match. Mais après, voilà, l'expérience, la maîtrise et puis l'envie aussi d'aller en finale et de reprendre le titre.
Alors justement, en finale, elles vont se retrouver face au Barça, FC Barcelone, c'est championne dur, hein, en titre. Hein. Elles avaient remporté le titre l'année dernière, si je ne me trompe pas, face aux Parisiennes, il me semble, en finale l'année dernière.
Non.
C'était pas l'année dernière ? Si, si, il me semble que c'était l'an dernier.
Les Parisiennes étaient en finale, vous êtes sûr ? Je crois pas. Hein.
Bon, alors, c'était pas des Allemands, en tout cas, elles ont conquis donc ce titre l'année dernière. La Norvégienne de Lyon, Ballon d'Or, on s'en souvient, premier Ballon d'Or féminin, Ada Hegerberg, a hâte d'y être à cette finale.
C'est un grand rendez-vous. Le FC Barcelone est incroyablement bien cette saison. Ça va être un tout autre match que celui face à Paris. Maintenant, il nous faut bien récupérer et bien préparer ce rendez-vous. Je dois dire que disputer une nouvelle finale est quelque chose de très important pour nous et nous avons vraiment tous hâte d'y être.
Le Barça, est-ce que c'est face à ce peut-être OL retrouvé, Philippe ? Est-ce que c'est une force nouvelle, le FC Barcelone ? On a vu qu'ils avaient beaucoup misé là-dessus, par exemple, plus que le Real Madrid, pour l'instant. L'Atlético a plus misé sur le foot féminin en Espagne. L'OL, en tout cas, n'a jamais perdu face au Barça pour l'instant.
Oui, mais je pense que cette fois-ci, le Barça sera le favori, d'abord parce qu'ils ont gagné.
Alors, ils avaient gagné
l'année dernière,
et puis contre Chelsea. Hein.
Et puis qu'il y a une véritable émergence européenne du foot, enfin, peut-être mondiale d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, les grandes Europes se mettent au football. Aujourd'hui, les plus gros budgets, c'est en Angleterre qu'on les trouve. Mm-hmm. Les clubs anglais sont en train de mettre des budgets considérables. L'OL a un grand
Chelsea,
mérite,
City,
parce que Jean-Michel Aulas, en plein Covid, en stratège qu'il est, parce qu'il a, c'est quand même, on peut lui reconnaître, c'est peut-être une période un peu difficile pour son club, notamment côté masculin, mais en grand stratège, quand il y a eu le Covid et toutes les difficultés budgétaires, parce que c'est en centaines de millions qu'un club comme l'OL a perdu, il a dit attention, on ne touche pas au budget du football féminin, on est resté à 10 millions, on n'a pas touché, et ça fait la différence,
bien
ça
sûr.
Fait qu'on a renouvelé l'équipe. L'équipe s'est quand même rajeunie. Il y en avait beaucoup qui avaient gagné énormément. Vous avez rappelé les 5 titres consécutifs. À force de gagner, c'est à la fois difficile de regagner et puis c'est difficile de changer l'équipe à ce moment-là, parce que quand on gagne la Ligue des Champions, on est tout le temps championne. Et malgré tout, ils ont su
Wendy
le faire.
Wendy Renard est encore là. Amandine Henry est là.
Oui, oui, oui.
Il y a encore
mais
quand même des piliers de ce groupe.
Mais il y en a qui jouent moins. Bouadi ne joue plus dans les buts, enfin, etc.
Oui.
Mais
c'est
il y a encore quelques anciennes qui jouent quand même assez régulièrement. Il y a 4 joueuses formées au club, si on compte Wendy Renard. Donc c'est encore une politique quand même qui fonctionne, qui marche. Mais aujourd'hui, Lyon n'est plus le grand d'Europe. Et dans leur mentalité, d'ailleurs, vous parlez avec les gens de l'OL, ils se disent bon, bah, on est ravis que d'autres nous aient rejoints sur la piste du football féminin, mais il faut qu'on s'attende à plus gagner. On est ravis d'être en finale, évidemment, mais il faut qu'on s'attende à plus forcément gagner parce que Barcelone est arrivé, parce que les Anglais
voilà,
sont arrivés.
Il y a une nouvelle concurrence.
Et que maintenant, il y a une nouvelle concurrence, mais c'est pour le bien du football féminin. Hein,
mais je crois à la force de l'institution. Mais moi, je crois à la force de l'institution que tu décris. Je crois à cette permanence au haut niveau grâce à ces efforts.
Bah, la preuve,
pionniers.
Elles sont en finale. Elles sont peut-être pas la deuxième équipe d'Europe en qualité, mais elles sont en finale encore cette saison.
Et ils sont pionniers. Aulas est pionnier. Il a fait ça il y a très longtemps.
Absolument.
Et quand tu dis que les Anglais aujourd'hui investissent massivement, parfois je me demande si c'est entre guillemets pour faire bien ou si c'est sincère. Moi, chez Jean-Michel Aulas, je sais que c'est sincère. Je sais qu'il a voulu faire ça.
Et je
sais que quand tu dis que pendant le Covid, il a dit on coupe pas les.
Ouais.
Parce qu'il y croit en fait. C'est pas cosmétique.
Oui, c'est vrai.
Et j'aimerais que
après, il y a des résultats en plus.
Et j'aimerais que tous ces clubs qui se développent dans le monde, notamment en Angleterre, ça ne soit pas pour des raisons de se faire...
D'image.
Ouais.
Alors, deux réponses. D'abord, en France, malheureusement, plein de clubs ont baissé leur budget féminin. Montpellier, Bordeaux, j'en oublie.
Bordeaux, ils font toujours du foot
Ils font du foot féminin, mais ils ont baissé leur budget.
Ils ne l'ont pas mis sur les hommes, en tout
et
cas.
Si les Anglais, et alors, si les Anglais mettent pas mal d'argent sur le foot féminin, c'est aussi parce qu'il y a une fédération en Angleterre qui a mis le paquet sur le foot féminin, à la différence du football français, c'est-à-dire c'est qu'elle ça, a dit, aussi, elle a obligé les grands clubs.
La FIFA théoriquement, hein, mais la pression.
Non, mais les Anglais ont obligé les grands clubs à créer leur section féminine et à mettre de l'argent. Elles les ont obligés. La fédération les a obligés. Alors qu'en France, on a beaucoup de sympathie et d'admiration pour ce que font Soyot, ici les Moulineaux, Fleury. Non, Juvisy est devenu le Paris FC.
Ah,
mais Fleury et autres qui sont en D1 féminine, c'est admirable, bravo.
Mais
quelque part, ce n'est pas normal. Non, mais quelque part, ce n'est pas normal. La Fédération française aurait déjà dû, alors peut-être d'ailleurs, s'arrimer à ces clubs-là. Soyot aurait peut-être
ça,
dû se mettre avec un club professionnel et autres. Comme Juvisy l'a fait avec le Paris FC, et puis monter en gamme, parce qu'on doit développer le football féminin, et malgré tout, les locomotives, ça doit être des grands clubs, et bravo à l'OL pour l'avoir fait depuis 10 ans au moins.
Et d'avoir été visionnaire.
Plus franchement, ce match PSG-OL est une vraie bonne vitrine pour le football féminin, parce que ça a été un super match, dans le jeu, dans l'engagement, dans le rythme. Ça a été vraiment impressionnant par rapport à ce que moi j'ai pu connaître avant sur les matchs que j'ai vus. Là, vraiment, c'était impressionnant, c'était super sympa. Il y avait entre l'ambiance et la performance sur le terrain, c'était vraiment un beau mélange. Juste pour parler de Paris en termes de féminin, je trouve qu'eux mettent des limites par rapport à Lyon. C'est-à-dire qu'il y a un barème de salaire, qu'ils ne peuvent pas aller au-dessus. Si tu as un temps, ben voilà, t'es dans une fourchette de salaire. Ça, tu ne peux pas réfléchir comme ça sur un... Si tu veux développer, surtout quand tu as les sous. Quand tu n'as pas les sous, je peux comprendre que tu essaies de t'adapter. Mais là, quand tu as les sous, je pense que tu peux mettre un peu plus d'argent.
Alors que Jean-Michel Aulas l'a fait.
Mais pourquoi pas, mais pourquoi ils ne le font pas chez les hommes? Pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Moi, ça ne me dérange pas qu'ils le fassent chez les femmes. Mais pourquoi ils ne le font pas chez les hommes? S'ils mettent une barrière de salaire chez les femmes, tu dois le faire chez les hommes. Un club, c'est le même modèle pour les hommes et les femmes. C'est incompréhensible. Ce que tu viens de dire là montre à quel point le PSG n'est pas un club.
Ils ne sont pas prêts, en tout cas, à développer comme il faut les choses.
Qu'ils choisissent. Ou ils ne mettent pas de plafond, ou ils mettent un plafond. Surtout ils font ce qu'ils veulent, mais ils la mettent aux hommes et aux femmes.
On se souvient des coups marketing, entre guillemets, mais que fait Jean-Michel Aulas quand il fait venir les meilleurs des États-Unis. Comme Morgan. Voilà, exactement.
Ada Egerberg.
Egerberg ou une autre américaine aussi. Je crois qu'elle était venue.
Clara Morgan.
Oui. Non,
pardon.
Mais.
Meghan Rapinoe.
Non, parce que Rapinoe.
Non, j'ai fait un.
Clara Morgan, c'est autre chose, Philippe. Nous, on ne veut pas connaître vos soirées. Non, mais Meghan Rapinoe, c'est autre chose.
J'ai fait un lapsus.
On sait ce qu'il regarde maintenant le soir chez lui.
J'avoue, franchement, visiblement. Je ne l'ai pas vu jouer. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais
moi
franchement.
Mais je ne la connais pas. Mais
je l'ai déjà vu dans un stade.
Philippe, nous ne voulons pas savoir.
Vous
on
savez
veut rien savoir.
Elle était là le soir.
Tes soirées t'appartiennent.
Elle
est marseillaise.
Un coup d'envoi, non?
Non, mais non, mais vous rappelez pas l'histoire. Lorsque le vestiaire du Paris Saint-Germain avait été chloroformé, enfin il y avait du.
Oui, il y avait un liquide amniotique.
Un liquide, machin. Et Clara Morgan passe devant le vestiaire à ce moment-là.
Ah bon,
vous vous rappelez pas de cette histoire?
C'est possible.
Une grande chose, Clara Morgan. Bon, comment elle joue? Mais vous m'embêtez. Là. Comment elle joue, l'américaine Morgan?
Mais Meghan Rapinoe?
Non,
mais Meghan Rapinoe, elle est venue à l'OL aussi.
Ah oui, non, mais je pensais pas à elle.
Alex Morgan.
Je pensais à la meilleure joueuse américaine.
Alex Morgan, qui était à la Coupe du Monde.
Qui était la meilleure joueuse en 2019.
Et qui sont championnes du monde.
Je me suis trompé d'un prénom, c'est pas énorme.
Non, vous pardonnez.
Puisqu'on parle salaire et autres, sachez ce que je vous disais tout à l'heure, que l'OL n'est plus le club qui va attirer les meilleurs. L'équipe de l'OL va perdre deux joueuses l'année prochaine. Et elles sont en fin de contrat. Et c'est Buchanan notamment, qui est une remarquable joueuse. Elle va aller à Chelsea parce que les salaires ne sont pas les mêmes. L'OL ne peut pas s'aligner sur les salaires que ces deux joueuses vont demander à des clubs anglais.
Bon, mais ils ont déjà de l'avance. Cette trophée dans l'armoire, je pense que.
Oui, ce côté-là, ils vont avoir du mal à être rattrapés. Oui,
allez,
ça prendra du temps.
On termine sur l'Italie.
Léon dans la surface, Léon, la frappe et le but! L'ouverture du score pour la AC Milan, signé Raphaël Léon!
Martinez face à Marco Silvestri et Martinez sur le poteau.
Oh, deux fois.
Martinez, le coup de tête!
S'en remettre,
bien sûr. Et on est ici.
Victoria,
Ils ne se quittent plus, ces Milanais, comme en Premier League où les deux leaders ne se lâchent pas. Avec un point d'écart en Angleterre, et bien en Italie, il y a toujours deux points entre Rossoneri en tête et Nerazzurri qui sont leurs dauphins depuis quelques journées déjà. Et on en est à l'issue de la 35e journée. Les deux équipes se rendent donc coup pour coup. Le Milan a battu la Fiorentina au cours du week-end, 1-0, vous l'avez entendu. Et puis l'Inter l'a emporté à Udinese 2-1. Perisic et Lautaro notamment ont marqué. Le Milan entrevoit le Scudetto qu'ils n'ont pas remporté depuis 2011. Comme le montre, écoutez-le, c'est amusant, ce commentateur du club. Hein, alors là, il est étiqueté Rossoneri, empli d'émotion et de passion en fin de match lors du but de Raphaël Léon à la 82e minute.
Ibra corre su Terracciano. Lancio lungo di Terracciano che sbaglia. Leao, il tiro. Gol! Gol! È il momento più bello del mondo! Gol! È il momento più bello del mondo! Milan ti amo! Milan ti amo! Milan! Milan! Palla dentro, Maignan! Maignan l'ha presa! È finita! È finita! È il momento più bello dell'anno, San Siro!
Un des moments les
fini.
Plus beaux.
Hein. On a presque dit c'est fini. Hein.
Non, finita la partie, t'as hein, seulement ce match-là.
Comme Capri.
Mais, mais c'est assez drôle de le voir à l'image où il pleure à la fin du match, où il regarde le ciel. Enfin bon. C'est parce que, Dominique, selon vous, cette émotion, je ne sais pas si vous la ressentez quand vous regardez le PSG, mais est-ce que c'est parce que c'est 11 ans d'attente pour ce club qui a vécu évidemment les très belles années de l'époque Berlusconi?
Ah bah oui. Puis c'est un club...
Oui, puis il a l'âge pour ça, c'est-à-dire c'est un monsieur déjà, il doit avoir une soixantaine d'années.
Je jouais enchaîner les poncifs, l'AC Milan, c'est un des plus grands clubs du monde avec le Real, c'est un morceau d'histoire du football, c'est un mythe, et 11 ans sans titre, c'est une anomalie du football. Alors après, quand on gère mal des clubs, et la fin de Berlusconi, c'était n'importe quoi. Donc forcément, il y a toujours un moment donné où on est menacé un peu, pas de disparition, mais on a des trous, des creux qui peuvent durer des années. Et donc là, bon, ils ont que deux points d'avance, hein, donc le suspense, il est total.
Il reste trois journées.
Mais oui, ils sont en train de toucher enfin, quoi, 11 ans après. Quoi.
Philippe, justement, cette équipe, quand même, 11 ans d'attente, mais dans un contexte. Alors en 2011, c'était déjà sans doute différent, mais je veux dire, par rapport aux années Berlusconi, c'est moins clinquant, c'est moins.
Oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus.
C'est plus équilibré dans la jeunesse.
C'est plus un projet sportif, je dirais que. Enfin, sportif dans le sens, c'est plus sur le talent des jeunes, notamment, hein, que l'entraîneur peaufine
avec
depuis plusieurs
années. Avec le talent des plus anciens aussi. Hein.
Voilà, avec l'aide, bien sûr, il y a Zlatan et Giroud, on n'oublie pas, mais c'est vrai que c'est un autre projet que l'époque plus.
Ah, mais non, mais il y a eu une époque où Milan pouvait se payer tous les meilleurs joueurs, le meilleur joueur du monde et ne s'en privait pas, même s'il y a toujours eu quand même. Parce qu'on est en Italie, il y a toujours un côté collectif, il y a toujours une construction autour de quelques joueurs italiens fondamentaux, les Baresi, etc., etc. Donc ça a duré quand même
tactiquement, ils ont
une
été
longue... Ils étaient en avance tactiquement avec Sacchi notamment, et ça a été complété ensuite par Capello. Mais donc ça, c'est toute cette culture-là, elle est restée. Ça reste, mais il n'y a plus les joueurs d'antan, bien évidemment. Et je pense que malgré tout, que ce titre, si le Milan l'obtient, ça va être une fête absolument incroyable pour ce club. Tout le monde est conscient. Ils ne sont pas dupes. Hein. Ils voient bien qu'en Coupe d'Europe, ils n'arrivent pas à des résultats phénoménaux.
Exact.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Ils
ont été éliminés dès le premier tour cette année. Mmh. Ça a été assez vite. Et ils ne sont plus à ce niveau-là, bien évidemment. Mais c'est pour eux, le titre italien serait une confirmation du retour tout à fait exceptionnel. L'ambition reviendrait avec.
Alors, les Napolitains qui espéraient et qui étaient bien partis en début de saison ont été décrochés. Mais Luciano Spalletti, l'entraîneur justement de ces Napolitains, a une bonne explication. Il estime que ce championnat reste très dur.
Et questo non è un campionato più facile degli altri.
La Serie A n'est pas un championnat plus facile que les autres, c'est même plutôt l'inverse. Car les équipes de seconde partie de tableau, celles qui luttent, eh bien, elles sont déterminées, elles ont un bon niveau de football, elles ont de grandes qualités pour rester dans l'élite. Et je peux vous dire que ce n'était pas vraiment comme ça les années précédentes. C'est pour ça que beaucoup d'équipes qui jouent pour les places en Ligue des Champions ont de gros problèmes cette année. Regardez l'Atalanta par exemple.
Tanti anni che erano dentro la Champions come l'Atalanta e come altre, ecco.
Eric Rabessandratana, c'est difficile la Serie A, mais est-ce que c'est aussi peut-être différent parce que la Juventus, qui avait aligné ses 9 titres tout d'un coup, c'est la deuxième saison qu'ils ne sont plus vraiment en tête, et du coup c'est plus ouvert peut-être, et comme le dit Spalletti, chacun essaye de s'en sortir.
Ouais, mais c'était pas aussi facile que ça. Il y a quand même entre Naples et la Juventus, oui, ils sont un peu moins fringants, mais ils sont pas très loin. En fait, il a pas manqué énormément.
Bah du coup, ils ont acquis au cours du week-end avec leur victoire leur ticket pour la Ligue des Champions l'année
mais
prochaine.
Ils sont pas très loin non plus. La Juve, je crois, je vais pas dire de bêtises, a fait un début de saison.
Ah oui. D'ailleurs, ils ont très vite dit, on oublie le Scudetto et ils sont concentrés.
Ils étaient très loin.
Objectif quatrième et ils seront quatrième ou troisième.
Ils seront quatrième vraisemblablement.
Peut-être troisième. Après, Milan a fait une belle saison. Ils ont, je trouve que le mélange jeune et joueurs d'expérience a bien fonctionné. L'Inter c'est quand même une machine à marquer.
Il marque pas mal de buts. Et champion sortant.
Et en plus, donc
Lautaro Martinez.
Je crois que le classement est normal aujourd'hui. Maintenant, ça va être dur jusqu'au bout. L'Inter va pas lâcher. Hein.
C'est un championnat, Annie, qui a fait sa révolution culturelle il y a quelques années, parce que pour moi, en tout cas, qui ai grandi dans cet esprit-là, l'Italie, c'était un championnat fermé, un peu catenaccio, tout ça. Et depuis quelques années, c'est vachement sympa de regarder le championnat italien. Mmh. C'est ouvert, il y a des buts, c'est spectaculaire. Pas chez toutes les équipes.
Non, quand il parle de l'Atalanta, c'est vrai que ça a été une révélation.
C'est vachement sympa, en fait. Il y a une génération d'entraîneurs qu'on ne connaissait pas avant.
Exactement.
Et donc, on a cité Sacchi tout à l'heure. C'est pas hier que le championnat italien s'est transformé.
Après, si tu fais attention,
il y a une trentaine d'années que d'autres influences sont arrivées, avec Arrigo Sacchi.
Il était redevenu un peu pénible. Non, mais Sacchi, c'était un génie.
Après, ils ont évolué.
C'est l'impression. Je pense qu'il y a quand même eu une évolution depuis Sacchi. Mais c'est vrai que les années de plomb, si j'ose dire, avec la domination de la Juve, de Allegri et autres, n'était pas super fun. Donc on a eu la sensation que l'Italie était revenue à son catenaccio, mais c'est pas le cas.
Écoutez, ce petit document sonore, c'est notre grand Olivier Giroud.
It's Olivier Giroud. I'm offering a signed shirt for an online auction for raising money in order to help the Ukrainian
à comprendre. C'est pas de l'italien là. Qu'il parle grâce à sa grand-mère. Mais en fait, c'est Olivier Giroud qui met son maillot du dernier match dédicacé. Il le met en vente et aux enchères. Et ce sera au bénéfice de, il le disait lui-même, des 3 millions d'Ukrainiens réfugiés en Pologne. D'ailleurs, au cours du week-end aussi, c'était le 1er mai, la Gazzetta dello Sport avait mis Giroud en une en mettant le diable d'Olivier Giroud, attaquant providentiel du Milan AC. Donc, quand on parlait d'expérience.
Bien sûr, parce que lui, c'est un fervent croyant en Dieu. Alors, faut pas lui dire que c'est le diable.
Et on s'approche de la fin de Radio Foot International de cette deuxième édition. Mais messieurs, quand même, partageons encore ensemble la qualification de Liverpool. Franck, ce soir, au détriment de Villarreal.
Folle soirée européenne. On est heureux de l'avoir vécu tous ensemble. Et puis. Ça promet une très très grande finale dans 3 semaines.
Un très beau scénario finalement ce soir. Villarreal a marqué 2 buts par Bolaïdia et Francis Coquelin. Et ensuite, les Reds ont déroulé Nabil. Voilà, Fabinho, Luis Diaz, Sadio Mané.
Bah oui, le Villarreal va sortir la tête haut. Mais sur cette double confrontation, il n'y a quand même pas eu de photo. Haute, pardon. Vous avez bien fait de me reprendre. Il y a eu une mi-temps qui a été gagnée par Villarreal. Et de quelle manière ? Ensuite, voilà, le collectif, le talent et Luis Diaz, notamment en facteur X, ont fait la différence. Reste à savoir maintenant quel adversaire en finale.
Merci à tous et à demain.